Bonjour, vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca consacrée aujourd'hui à une très ancienne institution alsacienne, le grand chapitre de la cathédrale de Strasbourg. Et pour nous en parler en studio à mes côtés, Bernard Cibot, chanoine de la cathédrale, doyen du chapitre, mais aussi chancelier de l'archevêché et président de la Société d'Histoire de l'Église d'Alsace. Cela fait plusieurs titres qui justifient, Bernard, votre présence à mes côtés pour nous parler de ce grand chapitre de la cathédrale.
Effectivement, Jean-François, je peux dire que je peux parler de ce chapitre à la fois de l'intérieur, pour faire partie de l'institution qui n'est pas exactement le grand chapitre, mais qui en a pris la suite après la Révolution, et d'autre part de l'extérieur, en tant qu'amateur plus ou moins éclairé, donc de l'histoire de l'Église d'Alsace, dont ce grand chapitre est un élément particulièrement important.
Alors commençons peut-être, Bernard, par définir ce qu'est un chapitre cathédral et puis ce que sont les chanoines qui le composent.
Alors, il faut bien voir qu'il y a une multitude de chapitres différents. Il a existé en Alsace des chapitres collégiaux, c'est-à-dire des institutions qui étaient rattachées à des églises qui n'étaient pas des cathédrales. En revanche, dans chaque diocèse, donc depuis la période carolingienne, il s'est mis en place des chapitres cathédraux. Alors là, il s'agit de clercs, C-L-E-R-C-S, donc des gens du clergé, qui sont censés mener la vie commune. En fait, ils vont l'abandonner au bout de quelques siècles. Mais en tout cas, au départ, c'est ça. Ils mènent la vie commune à l'ombre, au chevet des cathédrales. Ils ont une règle de vie qui se rapproche à peu près de la règle de vie monastique, à ceux-là près qu'ils ne font pas vœu de pauvreté, donc ils peuvent continuer à posséder des biens. Ils se retrouvent plusieurs fois par jour dans la cathédrale afin de mener la prière officielle du diocèse, donc c'est la liturgie des heures qui suit le cours du soleil, les laudes au lever du soleil, les vêpres à la fin de la journée, l'office de tierce au milieu de la matinée, sexte à midi, nonne dans l'après-midi. Et puis, il joue un rôle pour conseiller les évêques, qui sont les titulaires de ces cathédrales, dans le gouvernement des diocèses. Et ce rôle va aller, à partir d'une certaine époque, au moins le XIIIe siècle, jusqu'à élire l'évêque de Strasbourg à la mort du prédécesseur.
Connaît-on la date précise de la création de ce grand chapitre de la cathédrale de Strasbourg ?
Non, il n'y a pas d'acte en tant que tel qui ait été conservé. Ce que nous savons, c'est que sous l'ère carolingienne, donc il y a eu un certain nombre de conciles qui ont appelé à la constitution de chapitres, et notamment dans les cathédrales, et que au premier tiers du IXe siècle, à Metz, l'évêque de l'époque, le Chrodegang, Saint Chrodegang de Metz, a fondé un chapitre dans son diocèse. Et il est fort probable que c'est dans la foulée, alors 830, 850, je ne sais pas, mais en tout cas c'est dans la foulée qu'un chapitre a été installé à Strasbourg.
Vous voyez, disons que ça nous au 9e siècle.
Exactement, au 9e siècle.
Peut-on aborder la question de la composition et de l'organisation du chapitre au Moyen-Âge?
Alors, dans un premier temps, ce chapitre a pu regrouper un nombre assez considérable de représentants. On a des listes qui existent, et dans ces listes, parfois, ça peut aller à 30 ou 40. Et puis, par la suite, il a fallu ajuster le nombre des chanoines aux ressources qui étaient propres à cette institution, ressources qui dépendaient d'un certain nombre de terrains agricoles, en particulier dans le Korsberg.
Les fameuses prébendes.
Voilà, voilà. puisque à partir du moment où les chanoines ont décidé d'abandonner la vie commune, il fallait diviser le patrimoine, en quelque sorte, en prébendes, afin que chacun reçoive une part, finalement, de cette ressource. Hein. Alors, on en est arrivé à 24 chanoines. Je pense qu'au XIIIe siècle, on est déjà à 24 chanoines. Et puis, encore plus tard, alors là, c'est suite aux événements, à la guerre des paysans, à la réforme et compagnie, 24 chanoines, on les a maintenus, mais en séparant le groupe en deux, 12 chanoines capitulaires, les seuls à recevoir réellement donc une part des bénéfices, et 12 chanoines domiciliaires qui étaient en quelque sorte les successeurs en promesse, hein, les coadjuteurs si on veut, et qui eux n'avaient pas droit à la prébende. Hein. Et donc seuls, à la période d'apogée de cette institution, au XVIIe, XVIIIe siècle, seuls 12 chanoines capitulaires donc, étaient pleinement, membres de l'institution, avec 12 domiciliaires qui les secondaient en quelque sorte.
Alors, à la tête du chapitre se trouvent le doyen et le prévôt.
Oui, parce qu'il faut distinguer dans cette organisation, la dimension temporelle, qui est importante étant donné que les biens, les propriétés sont assez considérables. Il faut donc quelqu'un qui gère la chose et c'est la responsabilité de celui qu'on appelle le prévôt, le grand prévôt. Et puis, dans la mesure où il s'agit d'une institution spirituelle qui doit assurer un certain nombre d'offices dans la cathédrale, eh bien, il faut également un dirigeant du point de vue spirituel et c'est le doyen, le grand doyen.
Un mot sur la manse canoniale, qui est parfois plus importante que la manse épiscopale. Je précise pour nos auditeurs que la manse, c'est le patrimoine possédé par cette institution qui est le grand chapitre.
Oui, alors la question est de savoir comment cette manse s'est constituée. Il s'avère que au premier millénaire, la population était relativement réduite, en particulier dans certaines zones de l'Alsace actuelle. Et à partir de ce moment-là, des donateurs, en particulier de maisons seigneuriales, etc., ont fait des legs, comme on dirait aujourd'hui, assez considérables donc de territoires. Et c'est ainsi que le Grand Chapitre possède des biens un peu partout en Alsace, notamment dans certaines régions fertiles. Et tout cela constitue donc cette manse capitulaire là, qui, encore une fois, va permettre à la fois de gérer les dimensions communes, comme par exemple le siège du chapitre, qui est de Bruderhof, près de la cathédrale, et puis de fournir des prébendes à chacun des individus.
Alors, le Bruderhof est aujourd'hui occupé par le lycée Fustel de Coulanges.
Et par le grand séminaire, c'est tout cet ensemble au chevet de la cathédrale, donc un ensemble foncier considérable. Au Moyen-Âge, au tout début, les chanoines étaient appelés les frères de Marie.
C'est la raison. D'où la rue des frères.
Exactement, c'est le nom de la rue des frères qu'ils lui ont donné. Et s'ils ont cessé d'habiter de manière individuelle donc dans ces lieux, ils ont laissé tout de même le siège de l'institution. Et à partir du moment où cette institution gère un certain nombre de patrimoines, etc., eh bien, il y a des receveurs. Les receveurs qui sont ceux qui vont aller sur place pour encaisser les ressources, si vous voulez. Il y a des gens pour gérer le personnel. Il y a des gens pour gérer le trésor, entre guillemets, de la cathédrale, les ornements liturgiques, etc. Toute une administration, hein. Et c'est la raison pour laquelle ce Bruderhof est resté patrimoine du chapitre jusqu'à ce que Louis XIV, au moment où la ville de Strasbourg redevient française, va confisquer ce bâtiment pour l'affecter à deux grandes institutions qui correspondent aux besoins du temps. Un grand séminaire, puisque le Concile de Trente, entre-temps, a demandé que les clercs soient formés de manière organisée dans des institutions. Et un collège royal qui, en quelque sorte, assure la dimension universitaire, donc d'enseignement de la théologie, avec les jésuites. Et ça, c'est ce qui donne aujourd'hui lieu au bâtiment du lycée Fustel de Coulanges.
Nous allons marquer une première pause musicale dans cette émission Passé-Présent avant de poursuivre cette passionnante conversation consacrée au grand chapitre de la cathédrale avec vous, Bernard Xibaud. C'est Michel Delpech qui nous accompagne en chanson tout du long de cette émission. Nous allons écouter pour commencer son premier succès, c'était en 1965 chez Lorette.
À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Lorette souriait, et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Lorette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Lorette. C'était bien, c'était chouette, quand on était fauchés, elle payait pour nous. Plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Lorette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Lorette, on y retournera pour ne pas l'oublier, Lorette. Ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Lorette. Ce sera bien, ce sera chouette, et on reparlera des histoires du passé chez Lorette.
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca consacrée aujourd'hui au grand chapitre de la cathédrale avec à mes côtés en studio Bernard Xibaud, doyen du chapitre, président de la Société d'Histoire de l'Église d'Alsace, donc à ces deux titres au moins parfaitement autorisé à nous présenter cette institution qui est sans doute la plus ancienne de Strasbourg.
Oui, finalement, quand on y réfléchit bien, il y a eu d'autres institutions comme l'abbaye Saint-Étienne, hein, qui était plus ancienne. Mais l'abbaye Saint-Étienne, elle a disparu aux alentours de 1700, transformée en couvent de visitandine. Hein. Et finalement, eh bien, quand on réfléchit, qu'est-ce qui reste comme vraie institution très ancienne? Eh bien, ce grand chapitre.
le chapitre Saint Thomas, mais qui est un peu plus récent. Et puis l'œuvre Notre-Dame, on est là sur les institutions les plus anciennes de Strasbourg.
Voilà, sauf que l'œuvre Notre-Dame, si j'ose dire, ça nous ramène au XIIe, XIIIe siècle, alors que le grand chapitre est présent depuis le IXe.
Alors il y a une période charnière dans l'histoire du grand chapitre, c'est la réforme protestante. Quelles vont être les incidences sur le grand chapitre et comment le grand chapitre traverse cette période complexe qui est celle de la première moitié du XVIe siècle à Strasbourg?
Alors, ça va être effectivement source de grandes controverses et même d'une guerre, puisqu'on appellera la guerre du chapitre. Voilà, on l'appelle aussi la guerre des évêques, on va expliquer pourquoi. En fait, il faut comprendre qu'au départ, quand la réforme arrive à Strasbourg, elle ne se présente pas comme une nouvelle institution qui viendrait concurrencer la précédente, une église, entre guillemets, une protestante à côté d'une église catholique, mais comme un mouvement au sein de l'église, un mouvement réformateur. Et à partir de ce moment-là, chacun est amené à se positionner. Est-ce que j'adhère au principe de ce mouvement réformateur ou est-ce que je reste fidèle aux règles anciennes? Eh bien, au sein du chapitre, une scission va donc se produire entre ceux, en particulier un chanoine qui, un certain Truchsess, qui est aussi à Cologne, évêque de Cologne, qui prend fait et cause pour la réforme. Et alors à l'époque, ça aboutit à des décisions très concrètes, par exemple pour les clercs, décision d'abandonner l'idée d'une cléricature un peu à part et d'entrer dans la vie bourgeoise et de se marier. Voilà. Et puis, il y a d'autres chanoines qui résistent de façon très, très forte au mouvement de la réforme. Et cela va aboutir au moment de l'élection, après la mort d'un des évêques, puisque je vous ai rappelé que les chanoines élisaient les évêques, à ce que le chapitre se fracture en deux blocs. Un bloc qui va élire un protestant, en l'occurrence un jeune chanoine appartenant à la maison de Hohenzollern, donc bien connu par ailleurs, et le bloc catholique, qui s'est retrouvé à Saverne, ville restée catholique, qui, en opposition immédiate, va appeler à l'épiscopat strasbourgeois un membre de la famille ducale de Lorraine.
Charles de Lorraine.
Voilà, sachant que c'est une manière de se mettre aussi sous la protection des ducs de Lorraine et de leurs troupes qui ne sont pas loin. Et voilà, on a donc deux évêques, une guerre des évêques, mais qui est aussi une guerre des chanoines. Et alors, à partir de ce moment-là, alors la guerre des évêques va se résoudre au début du XVIIe siècle parce que le candidat protestant va accepter, moyennant finance, de se désister. Mais la guerre des chanoines va continuer encore au moins une trentaine d'années après parce que chacune de ces factions continue de recruter. Voilà, les chanoines catholiques recrutent des chanoines catholiques, les chanoines protestants recrutent des chanoines protestants. Et là, il y a un épisode qui est peu connu, mais qui est quand même assez cocasse. C'est une campagne de recrutement qui a été organisée par le bloc protestant pour avoir des candidats, en sachant, je vous le rappelle, qu'à cette époque était clairement établie la règle des quartiers de noblesse. Voilà, il fallait 16 quartiers de noblesse, mais de haute noblesse, des familles princières et comtales du Saint-Empire. Alors, les candidats n'étaient pas si nombreux. Et le bloc protestant, pour trouver des candidats protestants, a dû aller en Allemagne du Nord. Voilà. Et ils ont ramené des membres de la famille royale de Danemark, de Norvège, des ducs de Schleswig-Holstein, vous voyez, toute personne qui a priori n'avait rien à faire au chapitre de Strasbourg, mais il fallait des protestants.
Louis XIV s'empare de Strasbourg en 1681, le 30 septembre 1681. Il restitue d'emblée la cathédrale à l'évêque catholique, qui était par ailleurs chanoine de la cathédrale de Cologne. Et il va surtout, très vite, au début du XVIIIe siècle, modifier ces fameuses règles de, désignation des chanoines. Son souci, c'est d'assurer le trône épiscopal à une famille française, en l'occurrence les Rohan.
Voilà, Louis XIV est très, très embêté parce que dans cette Alsace où le concordat de Bologne n'a pas été introduit, ce n'est pas le roi qui nomme les évêques. Et si on laisse les chanoines élire l'évêque parmi eux, nécessairement cet évêque sera toujours un citoyen allemand. Voilà. Alors, Louis XIV commence par établir une première règle dans laquelle il impose un tiers de chanoines originaires du royaume de France, c'est-à-dire sur les 24, il en faut donc 8. Mais on a beaucoup de mal à recruter des chanoines qui remplissent les conditions très, très strictes. En effet, la noblesse française n'a pas suivi la même voie que la noblesse allemande. La noblesse allemande a gardé, y compris jusqu'à nos jours dans certaines maisons princières, la règle absolue de l'égalité de naissance, donc pour les mariages, alors que la noblesse française a appliqué un principe beaucoup plus généreux selon lequel le coq anoblit la poule. Voilà, ce qui fait que, moyennant, on accepte d'épouser des jeunes filles de familles non nobles ou de petite noblesse, à condition qu'elles apportent une fortune à la famille. Et à partir de là, donc, ça devient très difficile de trouver des candidats chanoines à Strasbourg. Et Louis XIV va être obligé de procéder à un deuxième changement, à savoir que les règles de recrutement en vigueur pour les chanoines français seront beaucoup plus souples que celles en vigueur pour les chanoines allemands. On n'exigera pas le grand arbre généalogique avec les 16 quartiers. On se contentera des deux lignées masculines pour le père et pour la mère. Voilà. Et ça suffira.
Nous allons marquer une nouvelle pause musicale dans cette émission Passé-Présent avant de reprendre notre échange consacré aujourd'hui au grand chapitre de la cathédrale de Strasbourg. C'est toujours Michel Delpech avec un titre de 1974, Le Chasseur.
Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages.
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca. Mon invité aujourd'hui, Bernard Xibaud, doyen du chapitre de la cathédrale de Strasbourg, par ailleurs président de la Société d'Histoire de l'Église d'Alsace, pour évoquer ce qui est peut-être la plus ancienne des institutions strasbourgeoises toujours existantes aujourd'hui, à savoir le grand chapitre de la cathédrale, nouvelle période charnière dans son histoire, la Révolution.
Alors, la Révolution, par principe, supprime l'ensemble des institutions monastiques, religieuses et canoniales. Et donc, d'un trait de plume, le grand chapitre de Strasbourg est supprimé. Mais il va mieux résister que les chapitres du reste de la France, dans la mesure où, premièrement, le diocèse de Strasbourg comprend une partie au-delà du Rhin, l'Ortenau, et par conséquent, il est possible aux chanoines de s'y réfugier. Et officiellement, l'institution va donc être transférée à Offenburg, une ville donc au cœur de cette Ortenau. Deuxièmement, la plupart des chanoines sont également chanoines de Cologne, puisqu'ils cumulent, ce qui leur permet d'habiter à Cologne, en fait, et de maintenir en quelque sorte un peu artificiellement l'institution. Et cela va durer jusqu'en 1803, à l'époque où l'Allemagne, un peu pour suivre l'exemple français, va nationaliser les biens des grandes abbayes, des grandes institutions. À partir de ce moment-là, le grand chapitre de Strasbourg va perdre ses biens dans l'Ortenau, et n'ayant plus de moyens financiers, devra cesser ses activités. Mais au moment même où il cesse d'exister de manière légale, donc à Offenburg, il vient de se mettre en place à Strasbourg un nouveau chapitre sur d'autres règles qui sont les règles concordataires.
Alors, peut-on développer ce nouvel état d'esprit qui s'impose au sein de l'Église, celui du Concordat?
Alors, d'abord, il n'est plus question de sujet aristocratique. Voilà, à partir de maintenant, les chanoines sont pris, je dirais, parmi dans un sentiment d'égalité, de liberté, d'égalité, fraternité. Ensuite, il faut bien voir que Napoléon Bonaparte, à l'époque, a énormément résisté au moment des négociations du Concordat, à la résurrection des chapitres. En effet, il avait une très mauvaise image de toutes ces institutions monastiques et canoniales qui pullulaient en France avant la Révolution et dont il n'était pas loin d'estimer qu'il s'agissait de parasites. Donc, alors les émissaires du pape Pie VII réclamaient la résurrection des chapitres. Napoléon n'en voulait pas. Il n'a fini par accepter qu'on introduise la notion de chapitre dans le texte du Concordat qu'à deux conditions. D'abord, il n'y aurait plus qu'un seul chapitre par diocèse, le chapitre cathédral, c'en est fini des collégiales. Ensuite, il n'y aurait plus 24 ou 50 ou 60 chanoines comme c'était le cas dans certains diocèses avant la Révolution. Il y en aura une poignée, car Bonaparte s'est laissé convaincre par l'argument développé par les négociateurs du Vatican, les évêques ont besoin d'un conseil. Soit, un conseil, ce sera 8 personnes, ça suffit. Et c'est ainsi que naît à Strasbourg en 1802 un chapitre avec 8 chanoines, tous prêtres, issus de la bourgeoisie locale, enfin voire de la paysannerie, enfin peu importe, en tout cas, qui ne sont plus tenus d'être des nobles.
La chose a quand même évolué dans le temps, au 19e et au 20e siècle, car aujourd'hui, vous êtes plus que 8.
Alors, il s'est passé un phénomène assez amusant, vers 1812 ou 13. En fait, l'évêque voulait absolument se débarrasser de celui qui était le curé de la paroisse Saint-Laurent, un certain abbé Yeglé.
Précise que la paroisse Saint-Laurent, c'est la paroisse de la cathédrale.
Voilà. Et cet abbé Yeglé l'avait été avant la Révolution, il l'était au lendemain de la Révolution, et il était profondément attaché aux Bourbons. Or, nous sommes dans l'Empire napoléonien. L'évêque cherche à s'en débarrasser, Et il lui vient une idée vraiment machiavélique, hein, sachant qu'il apprend qu'à Paris, on a réuni la paroisse au chapitre. Voilà, c'est un peu technique, hein, c'est-à-dire que désormais la paroisse est menée, dirigée directement par le chapitre. Il va donc prendre la même disposition à Strasbourg. Il réunit la paroisse de Saint-Laurent au chapitre avec la condition que, au nom du chapitre, un chanoine, alors on le rajoute, ce sera le 9e chanoine, avec le titre d'archiprêtre, sera le curé, en quelque sorte, enfin, jouera le rôle du curé. Le curé, c'est le chapitre, un chanoine le représente. Et l'abbé Yeglé, qui jusqu'à présent narguait l'évêque en disant « Je suis inamovible », se verra répondre par l'évêque Sorine « Certes, vous êtes inamovible, mais votre charge n'est pas inextinguible. » On l'a éteinte.
Nous allons faire un nouveau détour par la chanson avant de terminer cette conversation consacrée au grand chapitre de la cathédrale de Strasbourg. Nous retrouvons Michel Delpech avec un titre de 1977, Le Loir-et-Cher.
Ces gens-là ne font pas de manière. Ils passent tout l'automne à creuser des sillons, à tourner des hectares de terre. Je n'ai jamais eu grand-chose à leur dire, mais je les aime depuis toujours. De temps en temps, je vais les voir. Je passe un dimanche dans le Loir-et-Cher. Ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Je m'arrête dans le Loir-et-Cher, ils me laissent plus partir de chez eux. Je leur dis qu'il faut que je rentre sur Paris, que je ne fais pas toujours ce que je veux. Et qu'il faut que je trouve encore un poste d'essence, que j'ai pas le temps de finir ma bière. Que je reviendrai un de ces dimanches, passer la nuit dans le Loir-et-Cher. Sans jamais voir un cheval à hibou. Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson. Tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous.
Écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca, consacrée aujourd'hui au chapitre de la cathédrale de Strasbourg. Nous abordons la période actuelle. Bernard Xibaud, pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne le chapitre en 2023, quelles sont ses missions, quels sont ses modes d'organisation?
Alors, les 9 chanoines donc titulaires de la cathédrale de Strasbourg ont tous été nommés par l'évêque après avoir obtenu l'agrément pour la plupart du ministre de l'Intérieur et pour le dernier d'entre eux, suite aux mesures de simplification administrative, de la préfète du Bas-Rhin.
Alors je précise que le ministre de l'Intérieur en France est aussi ministre des cultes.
Voilà, à ce titre. Alors, nous ne menons pas la vie commune. Chacun vit dans son domicile strasbourgeois. Et on peut dire grosso modo que les chanoines se répartissent un peu en deux groupes, si l'on veut. Il y a le groupe plus âgé de ceux qui, ayant rempli un grand nombre de charges diocésaines, sont un petit peu en position, j'allais dire, de sages hein, par rapport à l'Église diocésaine. Et puis, il y a un groupe de plus jeunes qui continuent d'exercer des charges réelles au sein du diocèse. Et ces dernières années, ce deuxième groupe a augmenté par rapport au précédent. Hein. Donc, on est passé d'un chapitre de chanoine plus âgé à un chapitre de chanoine plus jeune. Alors, parmi les charges qui sont exercées, eh bien, le chanoine Gouillot assure des fonctions de directeur au Grand Séminaire. Le chanoine Dehan est le délégué de l'évêque auprès de la vie consacrée. Le chanoine Beuglin est le délégué de l'évêque pour toutes les questions œcuméniques. Le chanoine Donus est l'exorciste diocésain. Voilà. Moi-même, alors l'archiprêtre, bien sûr, s'occupe de la paroisse. Moi-même, je m'occupe de la chancellerie à l'évêché. Donc, vous voyez que nous sommes actifs encore dans le diocèse. Le diocèse nous demande d'assurer la charge de la prière. Alors, on ne le fait plus comme au Moyen-Âge, en venant toutes les 2-3 heures, parce qu'encore une fois, on a d'autres occupations et on n'habite plus à côté de la cathédrale. Mais nous le faisons très fidèlement le matin. Tous les matins, à 8h45, nous assurons l'office des Laudes, et à 9h, la messe capitulaire aux intentions du diocèse. Et puis, d'un point de vue convivial, donc nous nous retrouvons tous les matins avant cet office pour discuter de beaucoup de choses, mais aussi de l'actualité diocésaine et ecclésiale. Régulièrement aussi, à peu près 2 fois par trimestre, nous nous voyons pour une réunion de travail et nous la concluons par un repas convivial.
Mais vous n'élisez plus l'évêque.
Alors ça, c'est quelque chose que nous avons perdu avec le concordat. Nous n'élisons plus l'évêque. En revanche, alors évidemment que personne ne souhaite, où l'évêque disparaîtrait subitement par le décès ou par un enlèvement d'extraterrestres, les chanoines seraient appelés à élire un vicaire capitulaire qui assurerait de manière intérimaire l'administration du diocèse.
Mais ce privilège que vous avez détenu jusqu'à la Révolution d'être électeur de l'évêque dans une sorte de mini-conclave à l'échelle diocésaine, cela perdure symboliquement dans votre tenue vestimentaire.
Alors, il est vrai que nous avons droit à la soutane violette, voilà.
Qui est celle des évêques, normalement.
C'est cela, avec une pèlerine qu'on appelle la mosette ou le camail, donc de même couleur, donc qui nous donne un rang, je dirais, assez particulier par rapport aux autres chanoines de France qui, eux, pour la plupart d'entre eux, sont en tenue noire.
Est-ce qu'il y a des échanges entre les différents chapitres des cathédrales à travers la France ?
Alors, ils sont peu nombreux. Il se trouve que lorsque l'évêque de Créteil, qui est un nouveau diocèse, a institué un chapitre, nous avions écrit, donc pour les encourager. Lorsque j'ai aidé l'archevêque là, dans la rédaction des nouveaux statuts donc du chapitre, j'avais pris contact avec le diocèse de Metz, puisque c'est le diocèse concordataire voisin, et le diocèse de Fréjus-Toulon, parce qu'il avait lui-même rénové ses statuts plus récemment, et on s'est inspiré de ces statuts pour un certain nombre de dispositions. Oui. En revanche, vous me relancez, lorsque j'ai été élu doyen, j'avais le projet ambitieux de créer, alors, peut-être pas une association civile, mais enfin, en tout cas, une association de fait des chapitres de France. Pour l'instant, c'est quelque chose que je n'ai pas mis en œuvre, mais si vous m'y encouragez, je pourrais le faire.
Vous nous avez parlé, Bernard Cibot, des chanoines titulaires, mais il existe aussi des chanoines émérites.
Alors, les chanoines émérites sont les chanoines qui, en raison de l'âge, et en général c'est au-delà de 80 ans, jouissent d'une pension méritée. Hein. Alors, s'ils continuent d'être à Strasbourg et d'être en bonne santé, rien ne les empêche de participer aux activités de prière, que certains d'entre eux font très volontiers. Hein. Et puis, il y a des chanoines honoraires. Alors ça, c'est une invention française qui découle directement de la Révolution. À partir du moment où Napoléon ne voulait plus que 8 chanoines par diocèse. Les évêques ont estimé que ça ne serait jamais suffisant pour assurer la voix priante d'une cathédrale et qu'ils auraient besoin d'être renforcés. Alors, ils ont donc inventé en quelque sorte les chanoines honoraires, qui sont des ecclésiastiques à qui on donne le titre de chanoine, qui sont susceptibles de s'associer aux chanoines titulaires quand ils le peuvent, voilà, hein, notamment aux grandes célébrations diocésaines. En revanche, ils ne font pas partie réellement du chapitre reconnu par le concordat. Eux sont nommés en toute liberté par l'évêque, ils ne sont pas agréés par le gouvernement.
Il y a un livre qui vient de sortir aux éditions de la Nuée Bleue qui traite de ces grandes figures du chapitre de la cathédrale de Strasbourg. Vous l'avez devant vous, Bernard, peut-être pourriez-vous nous le présenter ?
Alors, il s'agit d'un livre de Dominique Henneres qui s'est distingué au préalable par un livre sur les décorations du Saint-Siège. En effet, Dominique Henneres est un grand spécialiste d'une science auxiliaire de l'histoire qu'on appelle la phaléristique. Il s'agit de la science qui s'intéresse, ça existe, aux décorations de manière très pointue. Hein. Car d'abord, il faut savoir, pour chaque décoration instituée par un État, à quelle époque elle l'a été. Et puis, les décorations entraînent des insignes. Et très souvent, ces insignes varient à travers le temps. Des fois pour des raisons véritablement imposées, d'autres fois tout simplement parce qu'on change de fournisseur, on change de fabricant et ça entraîne un certain nombre de modifications. Hein. Alors, le livre de Dominique Henneres est particulièrement important pour expliquer l'apparition d'une croix de chanoine en 1775, car à l'époque où les chanoines de Strasbourg reçoivent une croix qui les distingue, il s'agit d'une mesure rare hein, qui ne concerne que quelques chapitres de France, dont celui de Lyon, et qui veut, pour le roi de France qui l'institue, manifester leur place un peu prépondérante. Hein. Et puis, cette croix de chanoine, donc M. Henneres, a même retrouvé des croix dans les familles allemandes des titulaires qui l'ont portée avant la Révolution. Et puis cette croix va disparaître, donc avec la Révolution. Et au lendemain de la Révolution, c'est cette fois l'Église qui va instituer des croix pour distinguer les différents chanoines. Voilà, une croix pour le chapitre de Saint-Dié, une croix pour Digne, une croix pour Bordeaux, une croix pour Paris. Et c'est très tardivement à Strasbourg, c'est seulement à la fin du XIXe siècle, que nous allons recevoir une croix qui est particulière au diocèse de Strasbourg. Monsieur Henneres analyse cette croix et toutes les variantes qui ont existé donc, à travers l'histoire jusqu'aux temps les plus actuels. Hein. C'est vrai que quand nous nous retrouvons revêtus de la grande tenue, la sacristie, chacun, pour ainsi dire, porte presque une croix différente hein, entre celles qui ont été fabriquées à telle époque, à telle autre, etc. etc. Alors, encore une fois, merci à M. Dominique Henneres, parce que le livre est également enrichi de très belles photos hein, qui permettent de suivre toute l'histoire du chapitre, d'ailleurs au début du livre, il y a donc cet historique. Et j'ai accepté bien volontiers que M. Henneres reproduise les listes de chanoines que je reproduis de manière, j'allais dire, fragmentée. Donc à chaque bulletin des Amis de la cathédrale, je ramène un siècle. Voilà. Donc j'ai déjà fait le 20e, le 19e, le 18e, le 17e, le 16e. Voilà. Et M. Henneres a repris toutes ces listes. Et ce qui donne, pour toute personne qui s'intéresse à ce chapitre, une vision vraiment globale, très intéressante.
Pourriez-vous nous rappeler le titre de l'ouvrage, précisément ?
Alors, le titre, « Les illustres chanoines de la cathédrale de Strasbourg », car ils l'ont été, hein, le sont-ils encore. Et puis le sous-titre, très évocateur, « Histoire », ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, « Costume et insigne », la phaléristique.
Et c'est publié aux éditions de la Nuée Bleue. Merci beaucoup Bernard, nous allons nous séparer en chanson avec toujours Michel Delpech, un titre de 1974 qui nous invite au voyage, White is White, et je remercie Thomas qui a réalisé cette émission.
white, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, hippie, 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 hippie. Ils sont arrivés dans l'île nue, sans un bagage et les pieds nus, comme un cyclone inattendu. Comme une fleur avant saison, comme une pluie de papillons à laquelle on n'a jamais cru. White is white, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, hippie, 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 hippie. Toi qui as voulu t'emprisonner, as-tu le droit de condamner celui qui cherche à s'évader? Chacun mène sa vie comme il veut, tu ne peux plus baisser les yeux, car aussi vrai que tu es né. White, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. C'est comme un soleil dans le gris du ciel. White is white, hippie, 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 hippie. White is white, Dylan is Dylan. White is white, viva Donovan. C'est comme un soleil. White is white, hippie, hippie, hippie.
Thank you.